Et vous deux, Camille, et Irène aussi, connaissez-vous Dietrich Bonhoeffer?
Pas personnellement.
Je ne me serais pas permis.
J'ai un bouquin de lui à la maison.
T'as un bouquin de lui? Ouais. Ben, on va découvrir ça.
Tu me demandes de parler des écrits de Paul. Et maintenant, ce monsieur Bonhoeffer fait irruption. Explique-toi.
Justement, Camille, par hasard ou presque, les journaux ouverts, aux bonnes pages, ont été disposés sur la table de mon petit déjeuner. Ceux-ci m'ont conduit vers un parcours intéressant. Je te propose de m'accompagner dans ce cheminement en 7 étapes. Paul t'a parlé, alors tu le suivras. Et moi, c'est Dietrich Bonhoeffer. D'accord?
Bien. Paul, qui s'appelait Saül, est né à Tars, en Turquie, actuelle, mais est de nationalité romaine, dont celle de l'occupant. Il est très érudit, toi tiens bien. Il connaît l'araméen, l'hébreu, et sa langue maternelle est le grec. Il aurait été, vers 12 ou 13 ans, envoyé par ses parents à Jérusalem pour suivre la carrière de scribe et aurait été instruit par Gamaliel.
Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui.
Dietrich est né à Breslau, aujourd'hui Wrocław en Pologne, mais à l'époque c'était l'Allemagne, et donc lui aussi était de nationalité des futurs oppresseurs de l'Europe. Il est de famille bourgeoise et il est aussi très bon élève. Toutefois, sa vie semble placée sous le sceau du tragique. En effet, il perd un frère à la guerre 14-18. Et la suite?
Saül est très zélé pour ce qui est de l'apprentissage des lois juives. Il deviendra même un persécuteur pour les chrétiens. Il sera respecté et certains historiens pensent qu'il sera même membre à un moment de sa vie du Sanhédrin, haute autorité religieuse.
Dietrich, lui aussi très tôt, se destine à la théologie. Il est brillant. Il étudie à Tübingen, Berlin, New York. Lui aussi aura, comme Paul, une période sombre. Il faut se remettre dans le contexte de la période du traité de Versailles, qui était très injuste aux yeux des Allemands. Et à cette période, Dietrich développera une théologie de la guerre juste. Il dira:
je défendrai mon père, mon frère, ma mère, mon peuple, et je sais bien que cela ne se fera pas sans effusion de sang, mais l'amour envers mon peuple sanctifiera le meurtre et la guerre.
La rencontre que Saul va faire sera d'une part foudroyante, il en perdra la vue quelques jours, mais d'autre part fera vaciller les fondements mêmes de son comportement. En Actes 9, 3 à 6, il est dit:
poursuivant sa route, il approchait de Damas quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ? Demanda-t-il. Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire.
Changement radical, à tel point qu'après quelques jours de convalescence et de jeûne, il va dans la synagogue et proclame que Jésus est le Fils de Dieu. Tu imagines ? Aussitôt, il va s'engager à fond au service du Seigneur qu'il vient de rencontrer. Ça se voit et ça s'entend. Par exemple, en acte 13, lorsqu'il proclame que par la main du Seigneur, le magicien Elimas deviendrait aveugle parce qu'il s'opposait à lui et à Barnabas, chrétien en action. Témoin de cet événement, le proconsul fut impressionné et devient croyant.
Certes, là je ne peux pas régater avec Dietrich. Cette rencontre est vraiment très extraordinaire. Toutefois, Dietrich est enflammé lui aussi. Tu te souviens de sa théologie de la guerre juste qu'on a parlé tout à l'heure? Eh bien, lors de ses études à New York, il fait la rencontre d'un Français. Il est allemand, il fait la rencontre d'un Français. Jean Lasserre. Un Allemand qui rencontre un Français en 1930, c'est inconcevable. Mais ils vont s'apprivoiser. Mutuellement, une conversion va se produire, et pas n'importe laquelle. Dietrich va devenir un pacifiste radical, virage à 360 degrés. Il dira d'ailleurs...
Les frères en Christ ne peuvent diriger les armes contre le Christ lui-même, ce qu'ils feraient s'ils dirigeaient les armes les uns contre les autres. Qui d'entre nous peut dire ce que cela signifierait pour le monde si une nation accueillait l'agresseur, non pas les armes à la main, mais en priant, sans défense, et de ce fait même protégée par un rempart invincible?
Tu parlais de magicien. Eh bien, Dietrich, pour son premier acte de résistance, intervient dans une émission religieuse de la radio allemande le surlendemain de l'arrivée de Hitler au pouvoir. Il profite d'avoir le micro pour mettre en garde les auditeurs contre le glissement du Führer, qui veut dire conducteur, vers le Verführer, qui signifie le séducteur. Jeune mot qui lui vaut une interruption d'audience, et c'était le premier acte de la censure du nouveau régime. Dietrich avait 27 ans.
Paul est un globe-trotteur. Il va de pays en pays, Turquie, Grèce, Italie, et j'en passe. Il évangélise, des communautés se créent. Il suscite des vocations. Il sait s'adapter aux cultures et aux contextes. Par endroits, on tentera de le lapider ou de le jeter en prison. Mais il y a aussi des moments extraordinaires, comme dans Actes 17, 16 à 21.
Les frères de Thessalonique firent partir Paul et son compagnon Silas pour Bérée. Quand ils arrivèrent, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour voir si ce que disait Paul était exact. Un grand nombre d'entre eux crurent. Beaucoup de femmes de la bonne société et beaucoup d'hommes crurent également.
Il vérifiait si Paul, ce que Paul disait était juste. Donc là, c'est Actes 17, 10 à 12, pour ceux qui vérifieraient ce qu'on dit. Dietrich voyagera aussi beaucoup. Par exemple, il partira au Mexique avec son ami Jean Lasserre pour exhorter les jeunes à s'engager en faveur de la paix. Il faut nous rappeler que nous sommes juste à la fin de la guerre civile au Mexique. De retour en Europe, il sera nommé pasteur de 2 paroisses allemandes à Londres. Pendant la guerre, il ira en Pologne, puis sur la mer Baltique pour prendre les responsabilités d'un séminaire clandestin de l'Église confessante. C'est lors d'un voyage aux États-Unis qu'il prend une grave décision. Alors que ses amis américains le pressent de rester, lui, il rentre en Allemagne avec la conviction que sa place est auprès de son peuple. Il ira même plus loin, en rejoignant, après mûre réflexion, la conjuration qui prépare un attentat visant à assassiner Hitler. Rien de moins.
On peut rester assis.
Mon cœur t'appartient.
cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient, je cherche le tien.
Paul finira sa carrière comme prisonnier des Romains. Certes, ses conditions de détention sont allégées, dans Actes 28, 30 et 31.
Il confirme qu'il avait une maison individuelle qu'il louait lui-même.
Il aura une maison individuelle, sous bonne garde et même un esclave pour l'assister nommé Onésime. Ses années de résidence surveillées lui permettront de recevoir et surtout d'écrire, et il écrira beaucoup, en particulier aux églises qu'il a fondées, mais aussi aux autres.
Dietrich aussi sera arrêté en 1943 et restera en prison environ 2 ans. Et grâce à la complicité d'un gardien de la prison de Tegel, les courriers et textes qu'il écrira éviteront la censure. Un prisonnier, voisin de sa cellule, le capitaine Best, évoquera même dans un livre sa force morale indomptable et son infinie sollicitude auprès de ses codétenus.
Paul, toujours prisonnier, meurt à Rome vers 67, probablement décapité.
Dietrich meurt le 9 avril 45, pendu au camp de concentration de Flossenbürg, en Bavière.
Continuer avec le psaume 23, adapté probablement, peut-être, hein, à la mort qu'ils ont adapté dans le sens, je pense qu'ils avaient leur regard tourné vers l'Éternel qui était leur berger. Et qu'on puisse aussi prendre pour nous, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Sure.
Camille. Cette sixième étape est la plus noire de leur histoire.
Elle l'est aussi pour le Fils de l'homme, Jésus, que ces deux personnages n'ont cessé de suivre et de prendre comme exemple.
Oui, effectivement. Et comme le montre cette image, Jésus est mort crucifié, et la statue du martyr de Dietrich, sans tête ni bras, évoque aussi une forme de croix. Paul et Dietrich sont morts en martyrs parce qu'ils ont mis en pratique leur foi en Christ, en osant l'affirmer haut et fort, ce qui était particulièrement courageux, chacun ayant vécu dans une époque très troublée. Ces deux hommes ont souffert et sont morts en raison de leurs convictions mises en action. Christ les a rencontrés et a été leur modèle. Jésus, lui aussi, a eu peu de temps pour accomplir sa mission sur terre. Très jeune, il se rendait au temple pour étudier les Écritures, inlassablement. Il a sillonné la Palestine pour rejoindre ses contemporains. Souvent, il a été contesté, puis accusé, et finalement condamné et cloué sur la croix.
L'apôtre des gentils, c'est-à-dire des païens, comme on a coutume de l'appeler, a structuré la doctrine chrétienne. Par exemple, l'épître aux Romains a servi de référence à Luther pour fonder sa doctrine de la justification par la foi. Elle a aussi servi de référence au théologien Karl Barth, qui lui-même influencera Dietrich Bonhoeffer.
Dietrich Bonhoeffer a écrit un grand nombre d'ouvrages qui font référence encore aujourd'hui. Nous voudrions vous lire un poème écrit en captivité en 1944.
Souvent, ils me disent que de ma cellule, je sors détendu, serein et fort, tel un seigneur de son château. Qui suis-je? Souvent, ils me disent qu'avec mes gardiens, je parle de manière aussi libre, amicale et claire que si j'avais à leur donner des ordres. Qui suis-je? Ils me disent aussi que je supporte les jours du malheur d'une humeur égale, souriant et fier comme quelqu'un habitué à vaincre. Suis-je vraiment ce que les autres disent de moi? Ou suis-je seulement ce que moi seul sais de moi-même? Inquiet, impatient et malade, comme un oiseau en cage, m'inquiétant, sans pouvoir rien faire pour des amis infiniment lointains. Trop fatigué et trop vide pour prier, penser, créer, abattu et prêt à faire mes adieux à tout. Qui suis-je, celui-là ou celui-ci? Suis-je aujourd'hui cet homme et demain un autre? Suis-je les deux à la fois? Devant les hommes, un hypocrite, et devant moi un faiblard, méprisable et géniard. Ou bien ce qui est encore en moi ressemble-t-il à l'armée vaincue qui recule en désordre devant la victoire déjà remportée? Qui suis-je? Ce monologue me tourne en dérision. Qui que je sois, tu me connais, je suis tien, ô Dieu.
Paul et Dietrich ont fait des choix parfois surprenants, voire inquiétant, mais ils se sont appuyés sur Jésus, leur modèle, sur leur savoir théologique et sur la connaissance de leur auditoire. Ils ont été capables de contextualiser les textes de la Bible pour les rendre plus pertinents. Je voudrais vous poser quelques questions quand même. Dietrich Bonhoeffer, vous connaissiez?
Oui.
Un petit peu. Paul, vous connaissez? Beaucoup. Et c'est vrai que c'était des articles dans le journal Réforme, et je me suis, en les lisant, je me suis aperçu qu'en fait il y avait un miroir entre Paul et Bonhoeffer, et avec Camille on a cheminé là-dessus, et c'est très intéressant de voir comment contextualiser des textes en faisant attention bien sûr, mais de Dietrich Bonhoeffer, tous ses écrits ont beaucoup influencé des tas de personnes, mais aussi bien dans des choses positives que des choses moyennement positives. Mais c'est pour nous rendre prudents et aussi nous rendre attentifs que les textes, il faut les travailler. Et on revient un peu dans Actes où les chrétiens lisaient pendant que Paul parlait pour voir ce qu'il disait, si c'était bien juste. Ça m'a fasciné. Et du coup, en parlant avec Camille, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une envie d'aller plus loin dans l'étude de la parole de Dieu. Donc on va se confronter encore quelques temps, peut-être pas avec Dietrich et Paul, mais avec d'autres sujets, et je me réjouis beaucoup.